Bien le bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Mario Langlois Rencontre. Aujourd'hui, mon invité fait carrière dans le monde de la boxe depuis plusieurs décennies déjà. Même s'il est encore tout jeune, il va célébrer son 52e anniversaire dans quelques mois. Mais je me suis toujours demandé comment un homme né la même date de naissance que Guy Lafleur pouvait être un fan des Bruins de Boston. Stéphane Larouche est avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mario, ça va bien?
Il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas entre ta date de naissance et ton allégeance hockey, toi, un homme de boxe.
Écoute, t'as vraiment raison. Je l'ai dit, je me suis déjà excusé à Jeff Molson. Moi, je détestais pas le Canadien, mais quand tu grandis à Jonquière et à 5-6 ans, tu choisis les Bruins de Boston, tu ne sais pas nécessairement que Boston, c'est plus loin que Montréal. Moi, c'était le chandail, c'était Bobby Orr, c'était Phil Esposito, c'était rien contre les Canadiens.
Puis j'imagine un désir aussi de mettre le trouble dans le cours d'école. Si tout le monde était Canadien, là, qu'il y avait quelqu'un qui disait non, il y a d'autres équipes que le Canadien. Parce que je remarque ça chez les partisans des Bruins au Québec, là, une espèce de goût du combat, hein, mais, en quelque sorte.
Mais Mario, je mettais pas le trouble souvent. Je souffrais souvent.
Tu souffrais, c'est vrai, le Canadien gagnait souvent.
Tout le temps. Gilles Gilbert avait de la misère à ce moment-là. J'ai souffert. T'sais, honnêtement, pour être un fan des Bruins, faut être prêt à souffrir.
Ouais, ben là, ceux qui les affrontent souffrent peut-être davantage et sont impliqués dans les séries. De toute façon, c'était juste un petit clin d'œil d'introduction, bien sûr, parce que les prochaines minutes vont faire en sorte qu'on va plonger dans ta carrière, dans ta vie, dans ton cheminement et dans l'univers de la boxe. Mais dis-moi, Stéphane, après toutes ces années-là, est-ce que t'es encore aussi passionné, aimes-tu encore ça autant, ton sport, la boxe?
Ah, absolument, c'est un style de vie autant passionné, sinon, je dirais pas plus, mais de façon plus réaliste, plus conscient des contraintes, plus conscient des investissements à faire, plus conscient des embûches qu'on pourrait rencontrer. Nonobstant l'amour que j'ai pour le sport, je suis juste tout simplement un peu plus réaliste.
Une chose est certaine, c'est que t'as vécu parmi les plus belles années de la boxe. Clairement, là, je veux dire, il y a eu une grosse vague de boxe. Éric Lucas, Lucien Boutet. Je veux pas oublier personne, mais disons que ça a été les deux éléments clés, je pense, d'une longue période. Puis je veux pas oublier Stéphane Ouellet qui était là. Il y en a tellement. Mais qu'est-ce que ça a été pour toi, cette grande période-là? Puis surtout que tu le regardes maintenant avec un peu de rétrospective, maintenant que, bon, c'est peut-être plus calme en ce qui a trait ou en ce qui concerne des combats d'envergure en ce moment-là.
Mais on a vécu des choses différentes. Si on se rappelle, dans les années 70, où tu avais Henri Spitzer et Régis Lévesque qui faisaient de la boxe au Centre Paul Sauvé, les gens de Montréal étaient chanceux. Il y avait de la belle boxe, il y avait des combats équilibrés, il y avait des locaux qui se battaient contre des locaux, ce qui est beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui. L'arrivée d'Interbox à l'époque a amené une version nouvelle, c'est-à-dire la télévision. Ça a été ESPN au départ. Après ça, on a eu le privilège d'amener Showtime, HBO. Donc, on est arrivé au niveau de ce qu'on voyait aux États-Unis, où on pensait pas un jour peut-être qu'on pouvait vivre ça chez nous, ici à Montréal. Mais on a quand même réussi à faire pendant un certain temps ce qui se passait aux États-Unis. Donc, on a vécu cette période-là, oui, de Lucas, de Lucien Boutet, de Adrien Diaconou, de quelques Québécois à travers ça. Alain Bonamy aussi nous a fait vivre des belles choses. Les frères Hilton, évidemment, qui étaient aussi impliqués dans ces moments-là. Puis tu vois, aujourd'hui, il y a eu une espèce de creux de vague, en tout cas pour ma part. J'ai été mis un peu plus à l'ombre avec des jeunes recrues. Mais dernièrement, je décrivais des combats. Il y avait la finale de David Lemieux sur le show d'Eye of the Tiger à Laval. Puis il y avait Junior Ulysse qui était en sous-carte là-dessus sur HBO. Puis je me disais, gars, on est en train de revivre. On commence à revivre des belles choses encore. C'est cyclique, la boxe. Et il y a des moments où on est en haut de la vague, il y a des moments où on est en bas de la vague. Mais lorsque la vague se présente, puis tu es armé pour le faire, tu sais comment surfer là-dessus. Tu sais que dans le fond de la vague, il peut y avoir des requins. Il faut que tu apprennes à nager rapidement. Il faut que tu gardes tes mains à l'intérieur du boat. Mais quand tu reviens sur le haut de la vague, puis présentement, c'est peut-être ce qui va se passer, mais il y a des cycles dans le monde de la boxe, puis on en a la preuve là, dans les derniers temps.
T'sais, on s'intéresse beaucoup aux boxeurs et aux athlètes là, quand ils connaissent de grands moments de gloire et aussi quand on voit la chute se dessiner ou la fin s'approcher. Mais on met moins l'emphase sur ces vagues-là par rapport au rôle de l'entraîneur parce que vous êtes toujours un peu dans l'ombre de votre athlète. Mais c'est quoi pour toi, Stéphane, personnellement, de vivre cette période-là où il y a sans doute moins d'intensité liée à des... T'appelles ça un creux de vague, là, je sais pas comment l'appeler exactement, mais cette période-là, là, plus loin des réflecteurs là, en permanence.
Il y a un boxeur a une durée de vie. C'est-à-dire qu'il a décidé, un boxeur qui a été signé avec un promoteur, ça veut dire qu'il y a un certain potentiel. Il y a un nombre d'années où il accepte de prendre son corps, de prendre son âme, puis dire, je vais gagner ma vie avec ça. Et en général, selon la carrière amateur qu'il a eue, c'est une affaire qui dure 10 à 15 ans, peut-être 20 ans pour ceux qui durent plus longtemps. Et nous, notre job à nous, c'est quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de spotlight en haut de ta tête, c'est que tu fais du travail, tu te cherches des outils, tu apprends à les utiliser. Je peux m'acheter des meilleurs outils au monde puis prendre une planche, puis ça se peut que ça ne fasse pas une belle job parce que c'est la première fois que je l'utilise. Nous, notre job, c'est de développer des outils, des automatismes pour que le soir des grands événements, lorsque le boxeur est classé, lorsque c'est le temps de devenir champion, qu'il y ait les outils nécessaires puis qu'il ait appris à s'en servir dans son ascension. Et ça, il n'y aura pas tout le temps un journaliste pour te le dire, il n'y aura pas tout le temps une caméra, il n'y aura pas tout le temps une entrevue par rapport à ça. C'est pas toujours... glamour, cette partie-là. La partie où tu vas te battre dans un petit gymnase à New York, tu vas faire du sparring à Boston, tu t'en vas dans un camp d'entraînement, tu as eu des soirs difficiles, il y a quelqu'un qui devait pas te frapper, qui a réussi à te frapper, tu te remets en question. Ça, c'est notre job à nous, de les accompagner, ces gars-là. Puis ça se fait pas tout le temps en criant bravo, puis ça se fait pas toujours en disant c'est-tu le fun, la boxe. Il y a des moments extrêmement difficiles. C'est pas moi qui ai inventé ces phrases-là, mais Mohamed Ali l'a dit. C'est les plus grands combats, ils se gagnent pas en dessous d'un spot. Ils se gagnent cachés derrière un mur où t'es tout seul avec toi-même et avec ton équipe.
Avec un rêve aussi, j'imagine, parce que si tu ne rêves pas pour le boxeur, c'est difficile d'avancer. Il faut que tu sois charrié par quelque chose, par une grande détermination. Est-ce qu'on peut comprendre que bien qu'un entraîneur peut vivre plusieurs cycles avec différents boxeurs, donc que l'entraîneur caresse quelque part la même ambition que son boxeur, c'est-à-dire de l'amener, de l'accompagner, puis de vivre ce grand jour-là, là, la consécration?
Ah, d'autant plus, surtout quand tu l'as déjà vécu comme entraîneur, ce que les boxeurs vivent en grandissant, nous, on a souvent passé par là avec un autre avant lui. Là.
Ça aide?
Ah, ça aide beaucoup. Puis ça nous permet aussi de laisser le spot un peu, de dire, gars, c'est ton moment. Pierre Bouchard et moi, lorsqu'on est sur le ring, on s'en rend souvent compte. On a un jeune qui vient de gagner sa première ceinture, c'est une ceinture mineure. On va s'écarter un peu, on va aller dans le coin du ring, on va le laisser vivre son moment avec son monde, ses photos. On le comprend avec le temps. Mais évidemment, tu sais, l'objectif ultime est, lorsque le boxeur a le potentiel, de faire en sorte qu'il puisse devenir un champion du monde. Cependant, tout le monde peut rêver à l'impossible, mais on peut pas croire à l'improbable nécessairement. Donc, il faut être d'une certaine façon réaliste, quelque part.
Oui, clairement, parce que il a rêvé, puis il a rêvé en couleur à son détriment aussi.
Exactement. Alors,
t'en as vu, ça?
Tu le vois, oui. Tu le vois souvent avec des boxeurs qui n'ont pas été bien encadrés, qui ont été malmenés, qui ont été utilisés, puis qui pensent encore qu'en s'entraînant fort, ils vont devenir champions du monde. Ils ne savent pas que ça prend une grosse équipe, que ça prend un gros promoteur, que ça prend un promoteur qui connaît la game, qui sait jouer au poker avec les autres promoteurs. Ces boxeurs-là, on les voit, on brisera pas leurs rêves, mais on en voit, oui, absolument. Ou, encore une fois, un boxeur qui est sur son déclin, qui dit « Ouais, je vais faire encore un peu de binage parce que je veux redevenir champion du monde. » Un bel exemple, on l'a vu avec Evander Holyfield qui a fait une couple d'années à se battre avec à peu près tout le monde. Puis à chaque combat, il pensait qu'il était pour redevenir encore meilleur. C'est grâce à ce combat-là. Puis quand tes réflexes t'ont abandonné, quand tes yeux sont plus aussi bons... Quand ton courant électrique passe moins vite, puis les jeunes sont devant toi, tu t'en rends compte assez rapidement.
Je ne crois pas que tu aies travaillé directement avec, mais il reste que c'est un petit monde, le monde de la boxe. Le décès du boxeur David Whittem, est-ce que c'est quelque chose qui t'a, toi, bouleversé comme entraîneur, bien qu'il n'y ait pas de lien direct? Je veux dire, c'est bouleversant pour l'industrie et pour le sport aussi. Là.
Ah, c'est clair. Quand on l'a connu personnellement, je n'étais pas un ami proche de lui, mais il est venu souvent s'entraîner chez nous. On l'a fait boxer sur nos galas à nous. On lui a même permis de vivre son rêve de boxeur professionnel. Puis quand il arrive un accident comme ça, c'est extrêmement triste. Ça arrive pas souvent, tant mieux. Mais ça devrait pas arriver jamais. Et c'est des affaires qui sont, selon moi, des choses qu'on aurait quelque part pu voir venir.
Combat de trop?
Combat de trop ou la personne qu'il met sur son gala de boxe pour X raisons est consciente qu'il est suspendu à peu près partout dans le monde. Et tu décides de le faire boxer quand même. Il y a une raison pourquoi il a été suspendu. Et moi, je pense que chaque commission athlétique devrait toujours demander à la commission qui a suspendu le boxeur. Par exemple, le Québec avait suspendu David Whittam. New York avait suspendu David Whittam. L'Ontario avait suspendu David Whittam. Alors, une association X, dans ce cas-là, c'était le Nouveau-Brunswick. Des fois, c'était en Alberta. Pour avoir le droit de faire boxer un gars, il devrait faire affaire avec l'association qui l'a suspendu. Ici, c'était la Régie des alcools des courses des Jeux du Québec avec Michel Hamelin. Et seulement Michel Hamelin aurait eu le droit de lever sa suspension. Et s'il avait pu rencontrer tous les tests médicaux exigés par Michel Hamelin et la Régie des sports du combat du Québec, ben, il y aurait eu au moins des arguments médicaux pour prouver qu'il pouvait boxer. Mais il n'y a même pas eu les examens qui étaient demandés. Alors, c'est clair que tu cours un gros risque, puis les gens qui l'accompagnent sont aussi conscients de ça. François Duguay, c'est un de mes bons amis. Il est contre ce genre d'affaire-là. Mais il s'est dit, tant qu'à l'envoyer là-bas, quelqu'un qui tiendra pas à lui, j'aime autant être à côté de lui. Moi, je vais y faire attention. Puis il avait quand même terminé son combat, David Whittam. Les gens pensent que c'est pas arrivé dans le ring. Il est allé au plancher, il s'est relevé. Il s'est mis à pas bien filer dans la douche. Puis dans la douche, ça s'est mis à aller un peu mieux. Il a pris le taux. Puis après ça, il a rappelé François dans la soirée. Il dit, j'ai vraiment de la sueur, là, j'ai mal à la tête et je pense que je devrais aller à l'hôpital. Ça s'est passé comme ça. Là. Mais si on regarde encore une fois, le combat d'avant David Whittam pesait 175 livres à son combat avant son dernier combat. Ça veut dire qu'il a perdu 25 livres pour faire ce combat-là. Puis il n'avait pas perdu 25 livres depuis 10 ans. Donc, ton cerveau est plus sec, t'es moins bien réhydraté. Peut-être que le coup qui a fait le plus de dommages, c'était son avant-dernier combat. On ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas d'examen médical entre les deux.
Wow, c'est bouleversant juste de rebrasser tout ça, mais avec des détails peut-être que beaucoup de gens du public ne saisissaient pas. Et ça nous ramène à une réalité quand même. Tu l'as dit, il faut être réaliste dans ce monde-là. C'est un sport violent. Toi, tu y œuvres comme entraîneur, comme expert depuis quelques décennies. Est-ce que à un moment donné, c'est quelque chose qu'il faut que tu acceptes? La question, j'ai de la misère à la formuler, mais cette violence-là, à un moment donné, en as-tu eu ton voyage ou c'est quelque chose qu'à un moment donné, qu'on apprivoise, qu'on décortique, qu'on voit pas de la même façon que quelqu'un va regarder en se fermant les yeux?
Non, moi, je le vois comme une grosse boîte de bonbons, là, puis de temps en temps, il y a un bonbon qui est pas bon dedans. Moi, mon boxeur, il a décidé de prendre son corps pour gagner sa vie. Ma job, c'est de l'accompagner là-dedans le plus intelligemment possible. Mais s'il se fait frapper plus qu'il en donne, ça va être ma job à moi de dire, écoute, t'en prends trop. Mais à l'occasion, il y a un coup de poing qui n'a pas d'allure. Ici et là, il en passe un. Nous, on le voit plus comme des unités comme ça. C'est ça mon bonbon qui est un peu moins bon. Là. Mais l'objectif, c'est d'en prendre le moins possible. Puis c'est un sport qui, lorsqu'il est bien encadré, fait avec des gens compétents, les boxeurs bien protégés, c'est un sport qui est extrêmement excitant, qui n'est pas plus dangereux que d'autres sports, mais oui, c'est un sport de contact. On ne se compte pas d'histoire, mais si tu n'es pas bien bon dans ce sport-là, traîne pas là. Si tu es jeune, tu fais de la boxe, tu prends plus de coups que t'en donnes, traîne pas là-dedans.
Est-ce que tu aimes regarder un combat d'arts martiaux mixtes en comparaison d'un combat de boxe? Est-ce que c'est quelque chose qui te divertit, qui te séduit?
J'ai travaillé 3 combats avec Georges Saint-Pierre, puis j'ai appris à connaître ça un peu plus, mais quand même, je dirais que ça m'excite, non? Parce que je connais pas assez ça. Il y a plein de prises au sol que je comprends pas ou que je connais pas. Puis des fois, il passe proche de perdre. Puis moi, ça, ce bout-là, je l'ai pas vu. Où j'ai un peu de misère, c'est que le gars se fait knocker. Il va à terre. Puis s'il est à terre, il peut se refaire knocker encore. Ça devient un peu plus violent que chez nous à la boxe. Mais c'est un sport où c'est extrêmement... c'est un sport extrêmement exigeant. Tu sais, c'est combat de championnat du monde. Là, 25 minutes de travail avec 4 minutes de repos. C'est dur. Ça prend des athlètes exceptionnels.
Juste avant la pause, étais-tu content pour la boxe que Mayweather bat McGregor ou il n'y avait jamais aucun doute dans ton esprit?
Il n'y avait aucun doute, mais ça a été quand même plus difficile que prévu. mais on est extrêmement content. Puis oui, tu sais, on l'a senti cette pression-là vers la fin. Là, c'était la boxe contre le UFC.
Stéphane Larouche est notre invité aujourd'hui. On s'arrête le temps de quelques messages et on revient sur quelques-uns de tes plus beaux souvenirs dans ta carrière.